Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter en podcast sur notre site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Marie Bompard. Bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Marie, vous faites partie de Agribiodrome.
Oui, Agribiodrome, c'est le groupement drômois des agriculteurs biologiques qui est fédéré effectivement dans une fédération régionale qui s'appelle la FRAB, Fédération Régionale de l'Agriculture Biologique, et qui a pris la suite des deux anciennes structures des deux anciennes régions, Corabio pour la région Rhône-Alpes et le Grab Auvergne pour la région Auvergne. Donc on a recréé, pour coller à la nouvelle, au nouveau découpage territorial, une structure régionale qui s'appelle la FRAB Auvergne-Rhône-Alpes. Et toutes ces structures sont fédérées au niveau national dans la FNAB, Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique.
Alors vous êtes ici pour nous parler d'une certaine inquiétude, c'est-à-dire concernant les subventions européennes qui sont dispatchées en principe par les régions. Et là, c'est là que se trouve l'écueil pour les agriculteurs bio, du moins pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il y a un phénomène aujourd'hui qui est général et qui dépasse la question des agriculteurs bio. Il y a une catastrophe industrielle sur le paiement des aides PAC que à peu près tous les agriculteurs connaissent. Le souci, c'est quand même qu'on a trouvé différentes solutions d'attente pour les aides du premier pilier. Je vais être un peu technique. Les aides du premier pilier, c'est les aides découplées à l'hectare. Et pour quelque chose qui est très important dans le DIWA, qui est l'indemnité compensatrice de handicap naturel, l'aide à l'agriculture de montagne. Alors là-dessus, il y a eu des solutions bancales, mais qui ont été à peu près trouvées. Et notamment, les aides 2015 ont été toutes à ce jour soldées. Il reste sur ces aides-là à solder les aides 2016, donc je vous rappelle qu'on est en mai 2017. Par contre, pour ce qui est comme par hasard, pour ce qui est des aides à l'agriculture bio, ni 2015 ni 2016 ne sont soldés et ne le seront pas. Le nouveau ministre vient d'annoncer, en démentant son prédécesseur Stéphane Le Foll, qui nous avait assuré que ça serait absolument réglé au mois de juin de cette année. Le nouveau ministre vient de consulter ses services et vient d'avouer que le solde ne pourrait pas intervenir avant le mois d'octobre. Donc c'est dans ce contexte. Il faut savoir que les aides bio sont dans ce qu'on appelle le deuxième pilier de la PAC et que l'État et l'Europe ont confié aux régions le soin de définir comment ils entendaient verser ces aides à l'agriculteur bio. C'est dans ce contexte que la DRAF, qui représente l'État en région, et les élus du Conseil régional nous ont annoncé, benoîtement, 4 jours avant la fin des déclarations PAC 2017, qu'ils entendaient maintenant limiter très fortement les aides à la bio, alors qu'un certain nombre de gens se sont engagés. Il y a une très grosse dynamique en faveur de l'agriculture bio. Un certain nombre de gens se sont engagés. Et maintenant, on nous dit que, notamment en conversion, on va plafonner ces aides à 12 000 euros, ce qui est un chiffre qui est le plus bas de France. Il faut savoir qu'en général, et notamment dans la plupart des régions du nord de la France, le plafond est à 30 000 euros. Donc il y a quelque chose qui est assez incompréhensible et qui est en décalage total avec les discours de tout un chacun qui se félicite de la place du bio dans l'agriculture drômoise et de tout ce qu'on voudra. Mais quand il faut passer aux actes, il n'y a plus personne.
Alors, pour essayer de comprendre un peu la teneur de la problématique, je penserais peut-être qu'on pourrait aborder ce souci par le biais de votre ferme ou de votre production. Et de voir quels sont justement les écueils que ça amène dans votre gestion de production.
Dans ma situation personnelle, ça n'impacte pas grand-chose, puisque moi d'abord je suis en phase de transmission de mon exploitation, je commence à être un peu âgé, et puis j'exploite une surface qui est relativement réduite, donc, et je ne suis pas un cas isolé comme ça. La plupart des agriculteurs bio sont plutôt des gens aujourd'hui qui touchent plutôt moins d'aide de la PAC que les autres. Par contre, ce n'est pas pour cette raison-là qu'on doit se faire rouler dans la farine à chaque occasion. Et c'est surtout pas dans la situation où un certain nombre de gens s'orientent vers la bio et ont besoin, pour faire cette transition qui n'est pas une mince affaire, d'avoir un soutien qui a été annoncé, sur lequel ils se sont engagés. Ils ont pris des engagements vis-à-vis de l'État. De l'autre côté, l'État et le Conseil régional ont pris des engagements vis-à-vis d'eux. Et on leur dit au dernier moment que ben, finalement, on va changer d'avis. Et alors, pourquoi c'est important? C'est aussi parce que le signal qui est donné, il est quand même très négatif. Et qu'aujourd'hui, on entend parler dans les programmes d'un certain nombre de forces politiques, et notamment dans le programme du président élu, de paiements environnementaux. Donc c'est quelque chose que nous, on a toujours demandé. Ça paraît assez logique que quelque part, il y ait une rémunération de ce que le mode de production bio apporte à la collectivité. Notamment, un exemple simple sur le traitement des eaux. Les agences de l'eau ont compris depuis très longtemps que ça coûtait bien moins cher que les agriculteurs dans les zones de captage produisant bio, plutôt que d'investir des sommes folles dans des unités de dépollution qui, en plus, ne sont pas toujours capables de discriminer les phytosanitaires, qui sont le principal problème au niveau de la qualité des eaux. Donc, on est tout à fait d'accord, mais on est vigilant parce qu'on commence à être sérieusement échaudé. Et donc, ce dont on voudrait être sûr, et c'est pour ça que on vient de questionner tous les candidats aux législatives en leur demandant de se positionner là-dessus, quels seront clairement les conditions qui seront exigées pour bénéficier de ces paiements environnementaux. Est-ce que ce sera fait en vertu de critères précis, comme par exemple le fait d'adhérer à l'agriculture biologique avec un cahier des charges qui est quand même une ligne rouge claire, qui est à peu près la seule ligne rouge claire qu'on connaisse aujourd'hui? Eh bien, il faut que ça soit clair et il faut qu'on arrête de nous raconter des histoires. Et notamment, il faut qu'on arrête de nous parler d'agriculture écologique, d'agriculture raisonnée. Et je rappelle que l'agriculture raisonnée, aujourd'hui, c'est une vaste fumisterie et que dans le cahier des charges de l'agriculture raisonnée, qui a même été abandonné par le réseau phare qui le portait, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il n'y a jamais eu d'engagement précis de réduction des produits phytosanitaires qu'on peut utiliser dans l'agriculture raisonnée. Donc il faudrait peut-être à un moment qu'on revienne un peu sur du concret et sur la réalité des choses.
Alors concrètement, est-ce que vous avez un autre exemple, puisque vous ne pouviez pas nous éclairer sur ce domaine par rapport à votre exploitation? Est-ce que dans le Diwa, par exemple, qu'est-ce
si,
que ça
mais,
peut...
Si, mais ce n'est pas parce que... Voilà, moi j'ai des exemples dans mon entourage et des exemples, il y en a pas mal. C'est-à-dire que ce qui est plus grave, c'est que ça touche justement des jeunes qui sont en phase de transition ou des jeunes qui s'installent, qui ont un projet qui est a priori réfléchi. Le passage à la bio, contrairement à ce que disent un certain nombre de gens, c'est pas simplement je respecte 3, 4, 7 et puis je fais ceci, cela et puis je continue tout comme avant et puis tout ira bien. C'est une mutation profonde. Ça veut dire souvent que, par exemple, sur le plan commercial, même sur le plan de l'orientation, sur le plan des productions qu'on fait, il faut faire de sérieuses adaptations. Donc c'est une phase de transition qui n'est pas si facile que ça à absorber. C'est pour ça qu'il y a des aides publiques qui ont été prévues. Ça a été fait depuis très longtemps. Et donc les gens qui se sont lancés là-dedans ont l'impression d'être abandonnés en plein milieu du gué, ont l'impression que la parole de l'État ne veut plus rien dire. Et nous disons aux politiques, c'est extrêmement dangereux. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et qu'à un moment, il faut que la parole de l'État, elle soit respectée. Et il ne faut pas qu'on change parce qu'on veut caresser Pierre, Paul ou Jacques dans le sens du poil à tout moment.
Alors, ces subventions à l'origine sont européennes. Quel est son rôle à part distribuer l'argent aujourd'hui? Est-ce que c'est ça qui amène aussi les difficultés d'un manque de suivi de ces subventions de la part de l'Europe?
Mais l'Europe, c'est un peu compliqué, donc je ne sais pas, je crois que je vais épargner à nos auditeurs tous les rounds de négociations au niveau européen. Il y a eu un jeu qui a été joué par les États membres d'essayer systématiquement de négocier pour que les règles européennes puissent être adaptées au niveau national et pour essayer de dire que quand ça va bien, c'est toujours l'État ou la région qui en est responsable, et quand ça va mal, c'est toujours l'Europe qui va pas bien. Aujourd'hui, l'Europe a un gros problème de transparence, a un gros problème de règles qui sont effectivement, dans certains cas, inutilement complexes. Mais le problème central, de mon point de vue, de notre point de vue, ne vient pas de là. Il vient du fait que, par exemple, en ce qui concerne l'agriculture européenne, il y a quand même l'avantage d'avoir au niveau européen des directions claires. Et c'est les pays, les États membres qui souvent essayent de s'arranger avec ça et de s'arranger dans un sens qui paraît leur convenir. Nous, ce qu'on dit, c'est que cette politique-là, en ce qui concerne l'État français, elle est irresponsable. Et en plus, elle rompt avec des efforts des collectivités locales, les départements, les régions, depuis au moins une vingtaine d'années. Et quelles que soient d'ailleurs les majorités politiques, on fait des efforts dans la durée, des efforts constants. Donc aujourd'hui, ça se soit jeté aux orties, se soit cassé par des gens qui, quelque part, semble-t-il, ne croient pas trop à l'intérêt de cette démarche-là, ou veuillent faire de l'idéologie là-dessus, c'est assez lamentable.
La région, donc, applique sa propre règle dans cette redistribution d'argent, et c'est là que ça pose problème pour vous, je crois.
Ben, ça pose problème parce qu'elle a refusé d'anticiper. Qu'il y ait des difficultés et qu'ils aient sous-estimé l'ampleur des conversions en bio qui est très importante et dans notre région qui pourtant était déjà en avance se confirme et s'amplifie, ça on peut le comprendre. Mais qu'on se réveille comme ça au dernier moment alors que depuis 2 ans on ne cesse d'alerter sur les problèmes et on demande qui est un peu d'anticipation, ça, on ne le comprend pas. Et on ne comprend pas comment un État moderne aujourd'hui, avec les moyens dont il dispose, peut nous raconter qu'aujourd'hui, il est incapable de savoir combien d'aides ont été demandées en 2015, alors que la date qui a été imposée à tous les paysans était en juin 2015. Et donc aujourd'hui, on se retrouve en juin 2007, 48 mois après, on est incapable de savoir avec précision qu'est-ce qui a été demandé? C'est quand même quelque chose qui est assez étonnant. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que ça témoigne du fait que ce n'est pas une priorité. Les gens ont cette priorité-là dans les discours, mais dans les faits, cette chose-là, on le voit bien, ça passe après tout le reste.
Et cette problématique se retrouve dans toutes les régions de France aussi?
Elle se retrouve de façon moins aiguë et elle se retrouve comme par hasard plutôt dans les régions du sud où les niveaux de conversion sont plus importants. Et donc, on a donc le plafond des aides à la conversion est de 12 000 euros en Rhône-Alpes-Auvergne. Il est de 15 000 en PACA. Donc, et en PACA, la région PACA a décidé d'arrêter aussi les aides au maintien, c'est-à-dire après la période de conversion. Et puis, il y a de gros problèmes également en région Midi-Pyrénées. Puisqu'en région Midi-Pyrénées, il y a des départements comme le Gers, par exemple, où il y a eu des fortes vagues de conversion. Mais là aussi, les paysans qui se sont engagés là-dedans et qui sont en difficulté financière pour assumer cette transition-là ont quand même le sentiment d'avoir été floués.
Vous parliez de plafond de 12 000 euros pour la région Rhône-Alpes et pour 15 000 pour le PACA, par exemple. Pourquoi ces disparités de sommes d'une région à l'autre?
À partir du moment où chaque région avait demandé certaines sommes auprès de l'Europe, c'est inscrit dans un document qui s'appelle le PDR, le plan de développement régional. Là, il y a effectivement une anomalie, c'est-à-dire que les régions ont la possibilité de gérer leurs enveloppes avec des plafonds. Elles n'ont pas le droit de gérer d'autres paramètres, comme par exemple le montant à l'hectare qui doit être alloué. Donc, à partir du moment où elles n'envisagent pas de mettre sur leur denier des sous en plus ou de trouver les moyens d'obtenir du budget européen plus de montants, eh bien, ils utilisent les plafonds comme moyen de régulation.
Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez en fin de carrière, pour ainsi dire, et que vous allez transmettre l'exploitation à un nouvel agriculteur, un jeune agriculteur.
Oui, tout à fait. Oui.
Et quelles seront les incidences pour ce jeune agriculteur, pour son installation, alors, si ça pose problème avec ses plafonds ou ses revirements régionaux?
Ça pose problème, là encore, dans ce cas-là, pose des problèmes assez limités, puisque toutes ces aides sont liées aux surfaces, et le projet de mon repreneur, il est sur des surfaces relativement limitées. Donc, c'est pas lui qui aura les plus grosses difficultés avec ces choses-là. Les difficultés, elles sont sur des productions où on a aujourd'hui besoin, pour atteindre un niveau économique, d'avoir des surfaces non négligeables. Donc, c'est le cas de la production bovine-viande, c'est le cas aussi un petit peu des ovins-viande, et c'est le cas des gens qui sont en grande culture, mais ça n'existe pratiquement pas dans le Diois. Donc cette question-là est une question qui concerne plutôt la vallée du Rhône en ce qui concerne le département de la Drôme.
Vous êtes dans le Diois, je crois.
Oui, tout à fait. Hein.
Et donc autour de vous, est-ce qu'il y a des inquiétudes par rapport à ça chez d'autres agriculteurs? Justement.
Aujourd'hui, le terme d'inquiétude n'est pas un truc. Aujourd'hui, il y a un grand ras-le-bol. Et il y a une grande désespérance. Elle n'est pas liée à l'agriculture bio, elle est plutôt liée à un modèle économique de l'agriculture conventionnelle qui est en train de s'écrouler. Elle est liée aussi à la problématique dans le Diois, et quand même la problématique de l'élevage et de la prédation qui est quand même un problème extrêmement sérieux. Donc les problèmes ne manquent pas, et c'est curieux de voir que tout le monde nous parle d'agriculture, d'agriculture paysanne, etc. Et de voir qu'en fait sur le terrain, il y a quand même de très grosses difficultés économiques, des quantités de travail importantes, souvent des niveaux d'investissement qui sont très importants. Et qui font qu'aujourd'hui, les projets des jeunes agriculteurs sont quand même, il faut quand même une sacrée dose de volonté, et on ne sait pas si c'est de la volonté ou de l'inconscience pour se lancer dans des projets comme ça.
Et pour les jeunes agriculteurs ou les nouveaux venants dans le Diois, il y a aussi cette difficulté à accéder à des terres d'exploitation. Est-ce que c'est des choses que vous entendez?
Bien entendu, ça devient une difficulté tout à fait majeure. Il faut savoir de quelle terre on parle. Là, les généralités sont difficiles. Il faut savoir de quelle terre on parle. Les terres de fond de vallée deviennent effectivement recherchées. Et c'est celles qui sont par priorité mangées par le tourisme ou l'urbanisation. Or, c'est les seules terres qui permettent de faire des productions végétales dans des conditions à peu près correctes, quoi. Donc, par contre, de l'autre côté, on a des zones qui sont en déprise et en désertification totale. Et donc, il y a un contraste très, très fort.
C'est-à-dire que la particularité du Diois, c'est la Drôme, qui est quand même une rivière réputée propre. Est-ce que ça amène aussi une distinction par rapport à l'agriculture bio et qui est peut-être aussi déconsidérée par la région?
Non, je ne pense pas qu'il y ait cette dimension-là. Au contraire, tout le monde est prompt à se féliciter des apports de l'agriculture bio. De ce côté-là, il n'y a pas de souci majeur. Mais c'est plutôt l'agriculture bio qui apporte à la qualité des rivières que l'inverse. Donc, à un moment, on revient à notre préoccupation de départ. À un moment, si tout le monde se félicite de l'apport de l'agriculture bio, on est dans une société où ce dont on se félicite, quelque part, il faut le payer.
Alors face à ce mécontentement, ce ras-le-bol, je suppose que vous avez joint la région ou essayé de discuter avec la région. Que dit-elle ?
Elle dit rien, elle essaye de détourner le problème et pour le moment, quelque part, il n'y a pas une volonté de transparence énorme. Et du coup, elle dit qu'il y a une espèce de façon de se renvoyer la balle avec les services de l'État. Pour la région, l'argument aujourd'hui, c'est qu'elle ne dispose pas des chiffres qui leur permettent de prendre des décisions, dont acte, mais c'est eux qui sont en responsabilité depuis 2 ans. Donc, quelque part, on a quand même l'impression qu'il n'y a pas une très forte volonté de régler ces problèmes-là.
Alors, ce ras-le-bol, il pourrait déboucher sur des réactions. Est-ce que vous envisagez un mouvement pour vous faire connaître dans ces difficultés ?
Non, a priori, non, c'est pas dans les habitudes de la maison d'aller balancer le fumier dans les préfectures ou les sous-préfectures. Le fumier qu'on a, on préfère le garder pour l'utiliser mieux ailleurs.
Mais organiser que peut-être aussi des interventions
Non, mais c'est ce que je vous ai expliqué. On a interpellé les candidats aux législatives et on continuera d'interpeller les élus. Et par contre, ce qu'il nous faut, c'est effectivement un peu de transparence, un peu de clarté sur les orientations politiques. Et effectivement, de ce côté-là, on a ce travail à faire, on le fera. Par contre, la mobilisation des paysans est difficile parce que tous les producteurs en élevage, ils ont un peu du boulot. Et c'est aussi certainement une des dimensions de cette affaire-là. C'est-à-dire que les pouvoirs publics savent très bien qu'il y a un moment, on ne peut pas tout le temps barrer les routes et que ça n'a pas d'intérêt particulier. Mais vous avez complètement raison, il faut qu'on trouve d'autres formes d'action pour faire comprendre ça et pour pousser les pouvoirs publics à définir des politiques claires et à nous dire ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils ne veulent pas faire.
Vous citiez tout à l'heure les candidats et donc vous les aviez interpellés sur ce sujet. Est-ce que vous avez senti une écoute et peut-être un espoir d'action de leur part ?
Pour le moment, il nous reste à faire un bilan précis de ça. Pour le moment, les premières réactions me semblent pas très concluantes. Et on a des discours, tous bords politiques confondus, on a des discours convenus, que tout le monde est d'accord avec l'intérêt de faire ceci, de faire cela. Mais quand il s'agit de rentrer dans les politiques concrètes et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, ce qu'on demande exactement... on n'a pas l'impression qu'il y ait une telle appétence que ça à essayer de comprendre ce qu'on a à dire.
Tout à l'heure, vous parliez d'exemples d'agriculteurs qui possédaient genre 200 hectares de terre face à un autre qui en aurait 4 fois moins. Et donc, les plafonds sont comme des vases communicants. Il y a des perdants et des gagnants dans ce domaine ?
Non. Sur la question des aides bio, c'est une question qui se pose pas franchement. Parce qu'aujourd'hui, des gens qui ont ces surfaces-là, dans le Douai par exemple, je n'en connais pas. Donc c'est peut-être un faux problème au niveau de la répartition interne au Douai. C'est un problème au niveau de la répartition des aides bio au niveau national. C'est la raison pour laquelle on demande à la région plutôt de s'orienter vers un système de cadrage national de ces aides-là. Il n'y a aucune raison que, parce que vous êtes dans la région X, vous ayez 2 fois moins d'aide que dans la région Y qui est à côté. Et en plus, ça a des effets extrêmement négatifs. On a une filière, par exemple, même en production de céréales, où on a aujourd'hui une production dromoise en bio qui est relativement bien valorisée. Avec ce système-là, il est à peu près certain qu'on va avoir une concurrence de céréales bio produites dans le bassin parisien, avec des gens qui vont casser les prix parce que... ils n'ont pas les mêmes surfaces, ils font donc d'autres économies d'échelle. Et en plus, ils vont avoir des aides à la bio beaucoup plus importantes. ils seront dans une logique de casser les prix par le volume, qui est une logique tout à fait contraire à ce qu'on défend au niveau de l'agriculture bio. Et donc, c'est extrêmement dangereux. Et donc, c'est pour ça qu'on demande aux élus régionaux d'avoir la lucidité de comprendre que demander le petit pouvoir d'avoir à décider comment on répartit les aides bio à l'intérieur de la région, on n'en voit pas trop l'intérêt. Et je pense qu'ils auraient mieux à faire pour l'intérêt des agriculteurs de la région à réclamer avec leurs collègues une gestion nationale de ces aides bio, de telle sorte qu'il n'y ait pas de concurrence, qui soit concurrence tout à fait artificielle et qui est créée par des aides qui, de toute façon, auront une fin à un moment ou à une autre.
Tout à l'heure, vous parliez, et je vous posais la question à propos de jeunes agriculteurs qui désiraient s'installer. Et donc, il y aurait pénurie de terres agricoles pour pouvoir exploiter. Est-ce que vous pensez que les collectivités locales dans le Diois participent à cet essor ou à essayer d'aider les jeunes agriculteurs, même si parfois certaines villes, par exemple, s'approprient des terres agricoles pour les retransformer en zones d'activité au détriment de l'agriculture?
C'est une question qui peut se poser. Maintenant, les communes... étant conseiller municipal, par exemple, dans ma commune, je vois bien, et je pense que tout le monde conviendra, que la possibilité des communes d'agir là-dessus est quand même assez limitée. Donc, il peut y avoir des choses à faire au niveau de l'intercommunalité. Je pense que la communauté des communes du Diois pourrait se saisir de cette question-là. Elle a déjà commencé à le faire, d'une certaine façon. Maintenant, là, on touche à la question de la propriété du sol. Là, je pense que ça dépasse aussi les prérogatives de la communauté de communes et que là, on est face à des questions qui se posent au niveau national. Dans tous les pays de l'Europe du Nord, il y a d'autres systèmes de gestion du foncier agricole. C'est pourtant pas des pays d'économie dirigée. Pourtant, ils ont trouvé des systèmes d'office foncier pour éviter la situation qu'on vit aujourd'hui, d'artificialisation des terres et du fait que dès qu'une terre devient constructible, ben son prix est multiplié par 100 ou 200, ce qui fait que, évidemment, aucun agriculteur ne peut résister à cette pression-là.
Pourtant, les plans d'occupation du sol sont non dirigés ou sont menés par les collectivités locales pour transférer un territoire d'un type pour un autre type.
Oui, alors les plans d'occupation des sols, ça n'existe plus. Aujourd'hui, ce sont des PLU dans les grosses communes. Dans les petites communes, c'est éventuellement des cartes communales. Mais ces cartes communales, souvent, ne peuvent pas créer de hameaux et ne font que respecter un certain nombre de dispositions de la loi montagne qui privilégie l'extension des zones constructibles actuelles. Ça pose un gros problème dans toutes nos vallées de montagne. C'est que l'extension des zones actuelles, elle mange les meilleures terres agricoles. Et par contre, ces procédures type carte communale ou PLU ne permettent pas d'urbaniser de nouveaux hameaux qui seraient dans des zones dont l'intérêt agricole est très limité et sur lesquelles on pourrait créer du logement pour les actifs sur place dans des conditions acceptables, sans prélever de la terre agricole. Mais là, aujourd'hui, le cadre législatif ne permet pas de le faire. Donc il y a certainement, là aussi, des évolutions à trouver à ce niveau.
Pour résumer, quelles sont les revendications ou quels sont vos espoirs pour que les choses se résolvent et comment ?
Les choses se résoudront. On attend des pouvoirs publics qui ont des politiques un peu plus cohérentes. Mais je pense qu'on doit compter d'abord sur les consommateurs, et je crois que c'est eux qui ont le pouvoir d'acheter des produits locaux et le pouvoir d'acheter des produits de qualité, et c'est eux qui peuvent faire la différence par leur acte de consommation. Et je pense qu'on a plus à attendre de ces démarches-là que des promesses de gens qui font de la com avec la bio, mais qui pour le moment n'ont pas trop montré jusqu'où ils avaient l'intention d'aller.
Et la toute dernière, quels sont les sites internet où on peut voir ce que vous proposez ou ce que vous faites ?
La FRAB Auvergne, un site internet qui s'appelle auvergne-rhône-alpes.bio, tout simplement.
Eh bien, Jean-Marie Bompard, merci d'être venu et nous vous souhaitons une bonne continuité malgré tout. Bonne journée, au revoir.
Bonne journée.
Okay, the bird.